François d'Assise, Admonition. Chapitre 1 Du corps du Christ. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples : Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient à mon Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais vous le connaîtrez et vous le verrez. Philippe lui dit : Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui répondit : Depuis si longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas encore ? Philippe : Celui qui me voit, voit aussi mon Père. Le Père habite une lumière inaccessible et Dieu est esprit. Et personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu est esprit, l'esprit seul peut voir Dieu, car c'est l'esprit qui vivifie, tandis que la chair ne sert à rien. Mais le Fils, en tant qu'il est égal au Père, ne peut être vu par personne autrement que le Père, autrement que l'Esprit Saint. Aussi, tous ceux qui du Seigneur Jésus-Christ ont vu l'humanité sans voir son esprit et sa divinité, et sans croire qu'il est le vrai Fils de Dieu, ceux-là sont damnés. Pareillement, tous ceux qui voient le sacrement de corps du Christ, consacré par les paroles du Seigneur sur l'autel dans les mains du prêtre, sous les apparences du pain et du vin, et qui ne voient pas son esprit et sa divinité, et ne croient pas qu'il soit vraiment le très saint corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux-là aussi sont damnés, au témoignage du Tout-Puissant lui-même qui dit « Ceci est mon corps et le sang du Nouveau Testament, et celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. » Aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en ceux qui lui sont fidèles. Et celui-là le possède qui reçoit le très saint corps et le sang du Seigneur. Tous les hommes qui n'ont pas part à cet Esprit, et qui cependant osent communier, ceux-là mangent et boivent leur condamnation. Enfants des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur dur? Pourquoi ne connaissez-vous pas la vérité et ne croyez-vous pas au Fils de Dieu? Lui, tous les jours, il s'humilie comme à l'heure où, descendant de son trône royal, il vint au sein d'une vierge. Chaque jour, il vient à vous lui-même sous une humble apparence. Chaque jour, il descend du sein de son Père sur l'autel dans les mains du prêtre. De même qu'il s'est montré aux saints apôtres dans sa vraie chair, de même, il se montre à nous sous le pain sacré. Et de même que dans sa chair, il ne voyait que son humanité, tout en croyant et en contemplant de leurs yeux spirituels sa divinité elle-même, ainsi nous autres, nous voyons le pain et le vin de nos yeux corporels, et nous croyons fermement que c'est là son corps très saint et son sang vrai et vivant. C'est de cette façon qu'est toujours le Seigneur avec ses disciples, comme il l'a dit lui-même. Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Chapitre 2 Du vice de la volonté propre. Le Seigneur dit à Adam : Vous mangerez de tous les arbres du paradis, mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la science du bien et du mal. Adam pouvait donc manger des fruits de tout arbre du paradis, et tant qu'il ne fit rien contre l'obéissance, il ne pécha point. Celui-là mange de l'arbre de la science et du bien, qui regarde sa volonté comme son bien propre, se glorifie des biens que le Seigneur publie et opère en sa personne. Il écoute les suggestions du démon et transgresse les ordres divins, et ainsi, il trouve le fruit de la science du mal, et par là même, il faut qu'il en porte la peine. Chapitre 3 De l'obéissance parfaite et imparfaite. Le Seigneur dit dans l'Évangile : Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, celui-là ne peut être mon disciple. Et encore, celui qui voudra sauver son âme la perdra. Celui-là abandonne tout ce qu'il possède, perd son corps et son âme, qui s'abandonne tout entier lui-même à l'obéissance dans les mains de son supérieur. Toutes ses actions, toutes ses pensées, dès lors qu'elles sont bonnes et non contraires à la volonté de son chef, sont des fruits d'une véritable obéissance. Et si parfois le sujet voit des choses meilleures et plus utiles à son âme que celles que lui commande son prélat, qu'il sacrifie cependant sa volonté à Dieu. Les ordres de son prélat, son devoir est de s'efforcer de les accomplir. Car c'est là la vraie obéissance, inspirée par la charité, celle qui plaît à Dieu et au prochain. Mais si le prélat donne au sujet un précepte contraire à la conscience, il est permis de désobéir, sans toutefois quitter pour ce motif le supérieur. Et si cette façon d'agir lui attire des persécutions, qu'il aime davantage ses supérieurs pour l'amour de Dieu. Car celui qui préfère la persécution à la séparation de ses frères, celui-là demeure vraiment dans le véritable esprit d'obéissance, puisqu'il sacrifie sa vie pour ses frères. Il y a en effet beaucoup de religieux qui, sous prétexte de voir mieux que ce que les supérieurs ordonnent, regardent en arrière et retournent au vomissement de leur volonté propre. Ceux-là sont coupables d'homicide, et par leurs funestes exemples, ils causent la perte de beaucoup d'âmes. Chapitre 4. Que personne ne prenne de lui-même la supériorité. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, dit le Seigneur. Que ceux qui sont établis pour gouverner les autres se glorifient de leur supériorité, tout autant que s'ils étaient chargés de laver les pieds de leurs frères. Plus la différence de leurs troubles sera grande, de perdre l'autorité ou l'office de laver les pieds, plus le salut de leur âme sera compromis et en danger. Chapitre 5. Que personne ne se glorifie, sauf en la croix du Seigneur. Pense, ô homme, à quel degré d'excellence le Seigneur t'a placé. Il t'a créé, il t'a formé un corps à l'image de son Fils bien-aimé et une âme à sa propre ressemblance. Et pourtant, toutes les créatures placées sous le ciel servent à leur façon leur Créateur. Elles le connaissent et lui obéissent mieux que toi. Ce ne sont pas les démons qui l'ont crucifié. Et tu le crucifies encore à te délecter dans le vice et dans le péché. Peux-tu t'en glorifier? Quand même tu serais habile et intelligent, quand tu posséderais toute science, quand tu saurais toutes les langues et que tu scruterais finement les problèmes célestes, tu ne pourrais te glorifier de rien de tout cela. Un seul démon a connu plus de secrets du ciel. Il en connaît encore de Thérèse beaucoup plus que tous les hommes, bien qu'il se trouve des hommes qui aient reçu de Dieu une connaissance spéciale de la souveraine sagesse. De même, si tu étais plus beau et plus riche que tous, même si tu opérais des merveilles, si tu mettais les démons en fuite, tout cela te serait funeste, ne te servirait de rien, et tu ne pourrais t'en glorifier. Ce en quoi nous pouvons nous glorifier? C'est dans nos infirmités, c'est dans le portement quotidien de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 6. De l'imitation du Seigneur. Considérons tous, mes frères, le bon pasteur qui a souffert la passion de la croix pour le salut de ses brebis. Les brebis du Seigneur l'ont suivi dans sa tribulation, dans la persécution, dans l'opprobre, dans la faim et la soif, dans l'infirmité, les tentations et autres épreuves. Et pour cette fidélité, elles ont reçu du Seigneur la vie éternelle. Aussi, c'est une grande honte pour nous, serviteurs de Dieu, que les saints aient pratiqué ces vertus. Nous parlons d'eux et nous prêchons leurs exemples et nous voudrions pour cela recevoir gloires et honneurs. Chapitre 7. Que la bonne action soit faite avec intelligence. L'apôtre dit : la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ceux-là sont tués par la lettre, qui ne veulent connaître que le test pour paraître plus sages au milieu des autres, acquérir de grandes richesses et les donner à leurs proches et à leurs amis. Ces religieux aussi sont tués par la lettre, qui ne veulent pas suivre l'esprit des saints livres et qui préfèrent n'en connaître que les paroles et les interpréter aux autres. Ceux-là, au contraire, sont vivifiés par l'esprit des divines écritures, qui n'interprètent pas matériellement le texte qu'ils étudient et veulent pénétrer, mais qui, par leurs paroles et par leurs exemples, la font remonter jusqu'au Seigneur, la source de tout bien. Chapitre 8. Du péché d'envie à éviter. L'apôtre affirme : nul ne peut dire Seigneur Jésus qu'avec le secours de l'Esprit-Saint. Et encore, il n'est personne qui fasse le bien il n'en est pas un seul. Celui donc qui jalouse son frère à cause du bien que le Seigneur dit et fait en ce dernier, celui-là commet presque un péché de blasphème. Il envie le Très-Haut lui-même, l'inspirateur et l'auteur de tout bien. Chapitre 9. De la dilection. Le Seigneur dit dans l'Évangile : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour vos persécuteurs. Celui-là aime vraiment son ennemi qui ne s'attriste pas de l'injure reçue de lui, mais qui s'afflige par amour pour Dieu du péché commis par lui et qui prouve son affection par des actes. Chapitre 10. De la mortification corporelle. Il y en a beaucoup qui, en péchant, en recevant une injure, s'en prennent souvent à leur ennemi ou au prochain. C'est bien à tort, car chacun a son ennemi sous sa domination. C'est bien à tort, car chacun a son ennemi sous sa domination. C'est le corps, instrument de notre péché. Aussi, bienheureux le serviteur qui tient toujours un pareil ennemi enchaîné sous sa puissance et se garde sagement des mauvais coups. Tant qu'il agira de la sorte, aucun autre ennemi visible ou invisible ne pourra lui nuire. Chapitre 11. Qu'on ne se laisse pas influencer par le mauvais exemple. Au serviteur de Dieu, rien ne peut déplaire que le péché. De quelque façon qu'une personne pèche, si le serviteur de Dieu, autrement que par charité, s'en trouble et s'en fâche, il thésaurise le mal pour lui-même. Le serviteur de Dieu, qui ne se fâche et ne se trouble de rien, mène une vie droite et sans faute. Et bienheureux encore celui qui ne garde rien pour lui, rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chapitre 12. De la connaissance de l'Esprit du Seigneur. Voici le moyen de reconnaître le serviteur de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est de savoir, lorsque Dieu opère par lui quelque bonne œuvre, si sa chair n'en tire point d'orgueil. Cette chair toujours opposée à tout bien. Chapitre 13. De la patience. On ne peut pas savoir du serviteur de Dieu quelle patience et quelle humilité intérieure il possède tant qu'il est heureux. Mais quand vient le temps où ceux qui doivent lui être agréables font le contraire, alors autant il montre de patience et d'humilité, autant il en a vraiment et rien de plus. Chapitre 14. De la pauvreté d'esprit. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. Beaucoup sont fidèles à l'oraison et à l'office divin, pratiquent l'abstinence et la mortification corporelle. Mais qu'on leur adresse une injure, qu'on les prive de quelque chose, et ils sont aussitôt scandalisés et troublés. Ce ne sont pas là des pauvres d'esprit, car celui qui est vraiment pauvre d'esprit se hait lui-même et chérit ceux qui le soufflaient à la joue. Chapitre 15. Des pacifiques. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Ceux-là sont vraiment pacifiques, qui au milieu de toutes leurs souffrances, au milieu du siècle, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, conservent la paix extérieure et intérieure. Chapitre 16. De la pureté du cœur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ont le cœur pur ceux qui méprisent la terre, cherchent le ciel et ne cessent jamais d'adorer et de voir d'un cœur et d'un esprit pur le Seigneur Dieu, vrai et vivant. Chapitre 17. De l'humble serviteur de Dieu. Bienheureux le serviteur qui ne se glorifie pas plus du bien dit et fait en lui par Dieu que celui dit et fait par en que de celui dit et fait en autrui. Il pêche, l'homme qui exige de son prochain plus qu'il ne peut donner de lui. Il pêche, l'homme qui exige de son prochain plus qu'il ne peut donner de lui-même au Seigneur son Dieu. Chapitre 18. De la compassion envers le prochain. Heureux l'homme qui supporte son prochain avec ses faiblesses, autant qu'il voudrait être supporté lui-même dans un cas analogue. Chapitre 19. Du serviteur heureux et non heureux. Bienheureux le serviteur qui rapporte tous ses biens au Seigneur son Dieu, car celui qui retient quelque chose pour lui-même, cache chez lui l'argent de son maître, et ce qu'il croit posséder lui sera enlevé. Chapitre 20. De l'humble et bon religieux. Bienheureux le serviteur qui ne se regarde pas comme meilleur lorsqu'il est loué et exalté par les hommes que quand il est tenu pour vil, simple et méprisable. Car autant l'homme est devant Dieu, autant il est en fait, et rien de plus. Malheur au religieux qui est élevé en dignité par ses frères et qui ne veut plus redescendre. Bienheureux au contraire le serviteur qui n'occupe pas la supériorité de son propre mouvement et qui désire sans cesse être au pied des autres. Chapitre 21. Du bienheureux et du vain religieux. Bienheureux le religieux qui n'a de plaisir et de joie que dans les saints discours et dans les œuvres du Seigneur, et qui, par ses moyens, conduit les hommes à l'amour de Dieu dans la joie et l'allégresse. Et malheur au religieux qui se délecte dans des paroles oiseuses et vaines, et qui par ce moyen porte les hommes à rire. Chapitre 22. Du religieux frivole et loquace. Bienheureux le serviteur qui ne parle pas pour obtenir une récompense, qui ne manifeste pas tout ce qu'il a, qui ne se répond pas facilement en verbiage, mais qui prévoit sagement ses paroles et ses réponses. Malheur au religieux qui ne conserve pas dans le fond de son cœur les faveurs dont le Seigneur le favorise, et ne les manifeste pas au public uniquement par sa vie sainte. Malheur à celui qui, pour en tirer profit, cherche à les faire connaître à autrui seulement par ses paroles. Ce sera là sa récompense et ses auditeurs n'en retireront que peu de fruits. Chapitre 23. De la vraie correction. Bienheureux le serviteur qui reçoit les avertissements, les accusations et les blâmes avec autant de patience que si cela venait de lui-même. Bienheureux le serviteur qui, sous la réprimande, se soumet avec douceur, obéit avec respect, avoue son tort humblement et volontiers le répare. Bienheureux le serviteur qui n'est pas prompt à s'excuser et qui supporte humblement la honte et le reproche pour une faute dont il n'est pas coupable. Chapitre 24. De la vraie humilité. Bienheureux celui qui aura été trouvé aussi humble au milieu de ses sujets qu'au milieu de ses supérieurs. Bienheureux le serviteur qui demeure toujours sous la verge de la correction. Le serviteur fidèle et prudent, c'est celui qui expie promptement tous ses péchés, intérieurement par la contrition, extérieurement par la confession et les œuvres de satisfaction. Chapitre 25. De la vraie dilection. Bienheureux le religieux qui aime son frère malade et incapable de lui être utile, autant qu'il l'aime bien portant et à même de lui rendre service. Bienheureux le frère qui aime et respecte son frère absent autant que s'il était présent et qui ne dit jamais derrière lui rien qu'il ne pourrait jamais charitablement exprimer devant lui. Chapitre 26. Que les serviteurs de Dieu honorent les clercs. Bienheureux le serviteur de Dieu qui accorde sa confiance aux clercs dont la vie est droite et selon la forme de la Sainte Église romaine. Et malheur à ceux qui les méprisent, car bien que les clercs soient pécheurs, personne ne doit les mépriser. Le Seigneur seul se réserve le droit de les juger. Plus est élevée au-dessus de toutes les autres la fonction de ceux qui sont chargés du très saint corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que seuls ils reçoivent et que seuls ils administrent aux autres, plus est grand le péché commis contre eux, et plus cette faute dépasse celle commise contre tous les autres hommes de ce monde. Chapitre 27. Des vertus contraires aux vices. Là où règnent la charité et la sagesse, il n'y a ni crainte ni ignorance. Là où règnent la patience et l'humilité, il n'y a ni colère ni trouble. Là où se trouvent la pauvreté et la joie, il n'y a ni cupidité ni avarice. Là où se trouvent la paix et la méditation, il n'y a ni sollicitude ni dissipation. Où la crainte de Dieu garde le foyer, l'ennemi ne peut trouver la porte pour entrer. Où préside la miséricorde et la tempérance, il n'y a ni superfluité ni endurcissement. Chapitre 28. Il faut cacher le bien de peur de le perdre. Bienheureux le serviteur qui thésaurise pour le ciel les biens que Dieu lui offre, et ne cherche pas à en faire part au monde pour en tirer profit, car le Très-Haut lui-même manifestera ses œuvres à tous ceux qu'il lui plaira. Bienheureux le serviteur qui garde les secrets du Seigneur dans son cœur. Note du traducteur. Saint François répétait souvent, « Quand le serviteur de Dieu, en prière, reçoit une visite d'en haut, il doit dire, « Vous m'avez envoyé du ciel cette consolation à moi, pécheur indigne, ô Seigneur. Je la remets sous votre garde, car je m'imaginerais être voleur de votre trésor. » Et lorsque le serviteur de Dieu cesse de prier, il doit toujours se considérer comme un petit pauvre et un pécheur, tout comme s'il n'avait obtenu aucune faveur. Fin de note.